Direction l'Allemagne, cette semaine, pour une histoire comme il en existe peu en Europe. Et ce qui fait la spécificité de cette histoire, en l'occurrence un meurtre, c'est l'âge des protagonistes. Elles ont entre 12 et 13 ans. Sous fond de rivalité et d'intimidation, découvrez l'histoire de celles qui étaient pourtant les meilleures amies du monde. Aujourd'hui, la triste histoire de Louise Frisch. Le samedi 11 mars 2023, en début de soirée, les parents de la petite Louise, 12 ans, s'impatientent. Elle est allée rendre visite à une amie dans l'après-midi, non loin de chez elle, à Freudenberg, près de Cologne. Mais elle n'est toujours pas rentrée. Or, la nuit commence à tomber. Les parents se promettent de lui passer un savon, mais voilà que bientôt, ils reçoivent un coup de fil d'Anna-Marie Hoffmann, la copine chez qui est allée Louise. Et elle demande justement à parler à Louise. Elle explique qu'elle devait l'appeler dès son retour et qu'elles se sont quittées vers 17h30, mais que Louise ne l'a toujours pas appelée. C'était il y a 2 heures. Et les parents de Louise comprennent donc qu'elle aurait dû être rentrée depuis longtemps. Et comme elle doit couper à travers bois pour rentrer et qu'il a beaucoup neigé, ils pensent qu'elle s'est peut-être perdue. Elle n'a pourtant que 3 km de forêt à traverser et comme en plus elle ne répond ni aux appels ni aux SMS, ils prennent la décision de contacter sans plus attendre les autorités pour signaler sa disparition. Il est alors 19h45. À ce moment, les policiers pensent, comme les parents, que Louise s'est probablement perdue sur le chemin du retour. Plusieurs équipes de policiers se mettent alors à la recherche de Louise, mais les recherches doivent être stoppées à la tombée de la nuit. Impossible de fouiller correctement les broussailles, les recherches ne pourront reprendre qu'au lever du jour. Les parents, les pauvres parents même, vont attendre toute la nuit leur fille, mais en vain. Une opération de recherche à grande échelle est alors lancée dès les premières heures du matin. Les recherches sont toujours principalement concentrées dans la zone forestière de Kleintirol. Et comme Louise reste introuvable, en parallèle, les policiers vont commencer à mener leur enquête et ils vont sans tarder interroger l'entourage de Louise. À commencer par ses parents et bien évidemment par Anna-Marie, la dernière à l'avoir vue. Ainsi que d'autres camarades de classe, chacun afflue alors vers le commissariat pour être interrogé. Anna-Marie va indiquer être l'une des meilleures amies de Louise. Les deux fréquentent l'école polyvalente Esther Bejarano et se connaissent depuis de nombreuses années déjà. Anna-Marie confirme avoir passé l'après-midi avec Louise, elle s'était même filmée et avait posté des TikTok sur leur réseau. Ici, par exemple, elles sont en train de boire des sodas. C'était seulement une poignée d'heures avant la mort de Louise. Anna-Marie explique qu'elles se sont dit au revoir comme convenu, puis c'est tout, elle ne sait rien d'autre. Mais au cours de ces interrogatoires, aux alentours de 12h30, une nouvelle tombe. Louise a été localisée grâce au flair d'un chien policier dans la zone forestière de Kleintirol, justement. Et la pauvre est morte. Elle a de toute évidence été jetée en bas d'un talus, son corps gît dans une mare de sang et il est en piteux état, puisqu'il est lardé de 32 coups de couteau. C'est 32 fois que la pauvre enfant a été poignardée. Mais aucun des coups n'était mortel. Elle est morte après s'être vidée de son sang. Les enquêteurs pensent même qu'elle a été attaquée sur place et qu'elle était probablement toujours en vie au moment où son corps a été poussé dans le talus. Mais l'endroit de la découverte du corps pose des questions. C'est aux abords d'une piste cyclable, près d'une usine de traitement des eaux. Et ça, c'est curieux puisque c'est exactement à l'opposé du chemin que devait emprunter Louise pour rentrer chez elle. Mais alors, que s'est-il donc passé sur le retour ? Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? Et précision importante d'ailleurs, le mobile n'a pas l'air d'être sexuel, comme on aurait pu malheureusement le suspecter, puisque Louise ne présente aucune trace d'agression sexuelle. C'est le flou artistique pour les enquêteurs, mais ce qu'ils savent par expérience, c'est que souvent, lorsqu'un tel nombre de coups est porté à la victime, c'est que le tueur la connaît et qu'il lui en veut personnellement. Il y a souvent une rancœur tenace derrière ce genre d'acharnement, alors sans n'omettre aucune piste, les policiers vont continuer plus que jamais à se concentrer sur l'entourage proche de Louise. Mais voilà que, deux jours plus tard, le 14 mars, nouveau coup de théâtre, lors d'une conférence de presse, les policiers allemands et le parquet de Koblenz vont faire une annonce qui fera l'effet d'une bombe. Ils indiquent que deux suspects ont avoué le meurtre. Il s'agit de deux proches de Louise et elles sont âgées, chacune, de 12 et 13 ans. Elles se seraient attaquées à Louise au détour d'une dispute qui se serait déclenchée dans l'après-midi même de la disparition. Et ils supposent qu'elles l'ont attaquée à coups de lime à ongles et non à coups de couteau, comme ils le pensaient. Et ils indiquent qu'une fois l'enquête terminée, elle sera close. Et oui, il n'y aura pas de procès. Et à ce moment, un grondement se fait entendre dans la salle. Les journalistes ne s'attendaient pas à une telle issue. Ils veulent en savoir plus, mais le ministère public va invoquer le droit à la protection des auteurs mineurs d'infractions. Ainsi, les identités des tueuses ne seront pas révélées dans la presse, comme le veut la loi. Et ce sont d'ailleurs les journalistes qui trouveront leurs identités. Et on apprendra plus tard qu'il s'agit de la fameuse Anna-Marie, ainsi que de Luisa Halberstadt, âgée de 13 ans, une autre camarade de classe. Et aussi et surtout, en Allemagne, il faut savoir qu'en dessous de 14 ans, vous êtes considéré comme irresponsable pénalement. Donc, au cours de cette conférence, quand les journalistes vont insister pour au moins connaître le mobile du crime, c'est un peu gêné que les policiers vont expliquer, en savoir certes beaucoup plus, mais que l'urgence, c'est de protéger les auteurs de ce crime qui ne sont, je cite, que des enfants. Le procureur général Mario Manweller dira cette phrase, qui fera polémique, je cite, « Les auteurs présumés doivent être protégés, d'autant plus qu'il s'agit encore d'enfants. Quant au mobile du crime, les motivations qui ont poussé ces enfants à tuer pourraient ne pas être évidentes à comprendre pour un adulte. Et compte tenu des nombreux coups de couteau infligés à la victime, il est raisonnable de supposer que certaines émotions ont joué un rôle. » Fin de citation. Et voilà, la conférence de presse se termine comme ça, en d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça va provoquer un véritable tollé. L'affaire est si sensible, les Allemands si en colère, que les autorités doivent déplacer les bourreaux et leurs familles proches hors de la région pour leur sécurité. Et puis aussi et surtout, imaginez la réaction des parents de Louise. C'est une déflagration pour eux. Apprendre que ce sont les plus proches amis de sa fille qui lui ont fait ça et qu'en plus, il ne leur arrivera rien, absolument rien, ça a été difficile à digérer pour eux. Ils ont compris que c'est en toute impunité, de manière presque légale, qu'on a tué leur enfant. Sa mère dira « Il n'y a pas de mots pour réaliser l'inimaginable. Pour nous, la vie est finie. On ne voit pas le chagrin, on ne l'entend pas, on ne peut que le ressentir. » Ses parents ont placé une bougie allumée devant la maison avec les mots « Tu es maintenant une étoile dans le ciel. » Et on apprendra d'ailleurs plus tard que, pour ne pas qu'il y ait de chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux, pour notamment retrouver l'identité des deux agresseuses, eh bien tous les réseaux sociaux des personnes concernées dans cette affaire, y compris d'ailleurs ceux de Louise, ont été fermés sur ordre du ministère public. On apprendra aussi, et je précise que tout ce qu'on apprendra par la suite, c'est grâce au travail de terrain des journalistes, que les deux jeunes filles accusées, à la suite de cette affaire, ont été confiées aux services sociaux pour une durée indéterminée. Et elles sont actuellement scolarisées dans un établissement spécialisé et suivies de près, bien évidemment par une armada de psychologues. Et l'endroit où elles se trouvent a été gardé secret. Pour encore une fois éviter une cabale. Les deux bourreaux protégés par la police, eh bien aux yeux des Allemands, on ne doit pas les protéger, du moins une grande partie de la population, au regard de l'atroce crime qu'elles ont commis. Et pour l'heure, les enquêteurs doivent tirer les choses au clair, même s'il n'y aura pas de procès. Et ils vont le faire en toute discrétion. Ils refusent de donner trop d'informations. Et la question qui se pose, c'est celle de la préméditation, en plus du mobile, bien évidemment. Et comme je vous le disais, les policiers ont dit déjà savoir le mobile, en l'occurrence une dispute, mais laquelle? Et c'est ainsi que les policiers vont œuvrer 6 mois en silence, 6 mois avant d'annoncer que l'enquête est bouclée et qu'elle a été classée comme prévu. Ils vont simplement indiquer qu'il n'y a pas eu de préméditation et que l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. Et d'ailleurs, ils ne sont plus sûrs qu'il s'agisse bien d'une lime à ongles. Il pourrait finalement s'agir d'un petit couteau. Et quand les Allemands apprennent ça, eh bien, ça sonne faux à leurs yeux. Puisqu'une enfant ne se balade a priori pas avec une arme blanche sur elle. Et donc, si l'une de ces deux jeunes filles, on ne sait pas qui a fait quoi, avait sur elle un petit couteau, c'était probablement dans le but d'attaquer Louise. Et donc, parler de non-préméditation, ce n'est pas cohérent pour beaucoup, mais qu'ils soient contents ou non, c'est comme ça, l'affaire du meurtre de Louise est officiellement classée. Et à partir de là, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que les journalistes vont mener leur propre enquête. Ils ont a priori des indices au sein de la police et ils vont interroger les habitants de la ville de Freudenberg. Et ils vont en apprendre un peu plus sur la vie de Louise. Et ils vont réussir à peu reconstituer le puzzle. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert que les trois jeunes filles étaient effectivement de très bonnes amies et camarades de classe. Et deux d'entre elles, Anna-Marie et Louise, étaient même meilleures amies. Mais les filles se sont brouillées. Et oui, elles se seraient brouillées pour un garçon. On ne connaît pas les détails, mais a priori cette histoire tire sa source d'une sorte de triangle amoureux. Anna-Marie, qui convoitait ce garçon, a pris Louise en grippe. Le groupe d'amis de la classe s'est alors scindé en deux et Louise a commencé à être harcelée et intimidée à l'école par quelques de ses camarades, dont les bourreaux faisaient partie. Et Louise a eu le bon réflexe, pour une fois. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, qu'au contraire elle dégénérait, eh bien elle en a parlé à un adulte, lequel, je ne sais pas, mais les amis en question étaient rappelés à l'ordre. Et les choses s'étaient calmées. Et les filles étaient même redevenues amies. Sauf qu'en réalité, Anna-Marie aurait très mal pris d'être mouchardée. Alors on sait que les trois se sont vus l'après-midi du drame. Les journalistes pensent qu'il y a eu, comme je vous le disais, préméditation. La police, non. Quoi qu'il en soit, une dispute aurait éclaté cet après-midi. Louise se serait moqué de l'une des deux filles, d'après les dires des accusés. Une bagarre aurait alors éclaté et Louise aurait été tuée. Et ce qui justifie la préméditation, encore une fois pour les journalistes, c'est la présence de cette fameuse arme blanche. Puis, le fait que Louise ait été attirée à travers un tunnel ferroviaire désaffecté menant du village d'Onenheim, qui est à seulement 3 km de Freudenberg. Encore une fois, la scène de crime est à l'exact opposé de la direction que devait prendre Louise pour rentrer chez elle. L'une des deux filles, on ne sait pas laquelle, a indiqué aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas faire de mal à Louise, mais que l'autre, après avoir mis un sac sur la tête de Louise, lui aurait ordonné de la frapper à coups de pierre, sinon c'est elle qui mourra. Alors l'autre s'est exécutée. Puis la suite, vous la connaissez, elle sera lardée d'une trentaine de coups de couteau avant d'être poussée en bas d'un talus, encore vivante. Puis les deux filles seraient tranquillement rentrées chez elles. Mais elles auraient pris soin de brouiller leurs pistes. En vraies graines de tueuses qu'elles sont, elles n'ont rien laissé au hasard. Déjà, on retrouvera dans leurs historiques de recherche, datant d'avant le meurtre, des recherches concernant l'âge légal de la responsabilité pénale en Allemagne. Donc, on sait que les filles savaient que dans tous les cas, elles ne seraient jamais condamnées. Et si ça, c'est pas de la préméditation, c'est quoi, selon les journalistes? C'est bien la preuve, selon eux. Mais les parents d'Anna-Marie sortiront anonymement du silence pour défendre leur fille. Si elle avait fait ses recherches, c'est que le sujet avait été abordé en classe quelques semaines avant le drame. Donc les jeunes filles auraient, selon eux, juste voulu en savoir plus. Alors imaginez que ce soit un devoir d'école ou des cours qui ait provoqué la mort de Louise. Qui sait? Mais ce n'est pas tout. Les deux se sont mises d'accord sur une version à raconter, au cas où. Version qu'elles ont racontée aux enquêteurs, et c'est d'ailleurs l'étrange similarité de leurs interrogatoires qui va attirer l'attention des policiers. Et alors qu'elles criaient « aimer Louise et être meilleures amies », il n'aura fallu que peu de temps aux enquêteurs aguerris pour les faire avouer. Mais ce n'est pas tout. Anna-Marie a par exemple envoyé des messages faussement inquiets à Louise, qui était alors mourante par 0 degré dans son talus. Elle poussera même le vice, et ça vous le savez déjà, appeler les parents de Louise pour demander de ses nouvelles, mais pas que. Anna-Marie avait aussi pris soin de poster l'après-midi même du drame une vidéo d'elle et de Louise en train de rire. L'air de dire « Regardez, tout se passe bien, on s'aime, mais comment pourrais-je vouloir lui faire du mal ?» Mais les deux jeunes filles ne se sont pas arrêtées en si bon chemin puisque quelques heures seulement après le meurtre, elles ont posté sur TikTok une vidéo d'elles dansant joyeusement. Imaginez, vous tuez quelqu'un et ensuite vous allez danser sur TikTok. Et il y a pas mal d'affaires comme ça en ce moment. Et ça montre bien l'absence totale de regret. Elles devaient même peut-être ressentir une certaine satisfaction à l'idée d'avoir tué. Ou peut-être que ce sont là des poker face pour leurrer la police. Et cette vidéo choquera non seulement la communauté locale, la police également, mais aussi et surtout les camarades de classe de Louise. Sous la vidéo, lorsqu'elle était encore disponible, les camarades de classe des trois filles avaient commenté « Comment as-tu pu faire ça ? Je n'arrive pas à y croire. » Ou encore « Quand la chaise de la salle de classe était vide ce matin, nous savions tous ce qui s'était passé. » Donc finalement, préméditation ou non, peu importe, puisque les bourreaux ne peuvent pas être condamnés, et ça irrite pas mal de gens, faut-il revoir cette fameuse loi sur la responsabilité pénale des enfants ? Est-ce moral de condamner un enfant ou, à contrario, est-ce moral de ne condamner personne pour un crime ? Un enfant peut-il passer entre les mailles du filet, même s'il a prémédité un meurtre ? Ne devrait-il pas y avoir des exceptions lorsque des indices indiquent que les choses ont été mûrement réfléchies, par exemple ? Eh bien, les autorités ont répondu, elles ont annoncé réfléchir à peut-être modifier la loi. Face à la popularité de ce fait divers qui a littéralement défrayé la chronique en Allemagne, et c'est normal puisqu'il n'existe presque pas d'affaires avec des protagonistes aussi jeunes, bien le Premier ministre, Hendrik Wüst, a assuré que la mort de Louise ne serait pas sans conséquences. Et effectivement, l'État peut-il, doit-il en faire plus pour lutter contre la violence chez les jeunes ? Le gouvernement a promis qu'il se pencherait sur la question, mais finalement, rien ne sera fait dans ce sens, du moins jusqu'à ce jour. Et on apprendra une toute dernière chose, que la famille d'Anna-Marie veut quitter l'Allemagne pour s'installer au Brésil, qui est le pays d'origine de la mère d'Anna-Marie. Mais le problème, c'est que, souvenez-vous, la garde d'Anna-Marie a été temporairement retirée aux parents. C'est l'État qui se substitue à eux et qui ont, entre gros guillemets, tout pouvoir sur Anna-Marie. Et ils refusent qu'elle quitte le territoire. Donc les parents d'Anna-Marie ont expliqué se battre pour récupérer sa garde et l'emmener vivre loin d'ici. Ils ont indiqué qu'elle a quitté l'établissement thérapeutique dans lequel elle était en novembre dernier et qu'elle vit désormais dans un foyer de groupe. Elle doit encore prendre beaucoup de médicaments et pleure toute la journée, selon son père. Voilà, vous l'aurez probablement déjà compris, mais il est probable qu'on ne sache jamais vraiment ni le mobile exact, ni le déroulé des événements. Et les deux jeunes meurtrières ressortiront un jour pas si lointain, et vivront leur vie dans l'anonymat le plus complet. La justice, considérant que finalement, c'était un peu une erreur de jeunesse tout ça. Et vous, qu'en pensez-vous ? Erreur de jeunesse ou finalement rien n'excuse ? Inexcusable ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on vous dit à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.